Moi, ce que je dis toujours, c'est que les jeunes, ils devraient pas y en avoir. Et puis c'est tout.
Hey, je veux dire à tous nos amis qui partent bientôt en vacances de ne pas oublier de mettre dans leur bagage une brosse à dents neuve.
Vive la cuisinière à feu continu.
Terminons ce tour d'horizon par une note réconfortante.
Je vous demande de vous arrêter.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Une émission proposée et réalisée par Guillaume Martel, présentée par Olivier Vadreau. Avec votre équipage habituel, Jack Marshall, l'homme à tout faire, Mafalda, la voyante, Vincent Turban, notre mélomane invétéré, et bien sûr, à la barre, l'étrange Captain Mifle.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 19 mai 2026, il est 15h dans le fuseau horaire de Radio Libertaire 89.4. Je suis très heureux de vous retrouver à bord de notre navire, eh bien, dépêchez-vous de rester jeune. Il est le fondateur du Phonomuseum et le gardien de la mémoire du son enregistré. Il possède les plus beaux appareils de diffusion, phonogramme, chaîne stéréo, Walkman, pick-up, poste de radio, lecteur, MP3. Comme tous les musées, ce lieu est un enchantement permanent. Petit par la taille, mais grand par l'histoire qu'il raconte. Bonjour Djalal Haro.
Salut Olivier.
Tout va bien ?
Un pic. Ouais, comme on... la musique, ouais, ça on... va toujours.
On est enregistré, mais on sera enregistré en numérique ici, là. Nous avons tous besoin de repères, d'avoir un phare qui éclaire dans nos nuits. Un musée, c'est la concentration ultime d'un patrimoine. Il y a des musées pour tout. Musée des nourrices à Aligny dans le Morvan, de la musique mécanique à Mirecourt dans les Vosges, des santons de Provence aux Baux de Provence, des voitures anciennes, de la dentelle, de la magie ou de l'érotisme. À Paris, nous avons le plus petit des grands musées consacrés à l'enregistrement du son. Pénétrez dans ce temple et vous serez conquis par la beauté des pièces présentées et par la passion de son heureux guide. Comment t'es venue cette idée, Djalal, de créer un musée ?
C'est
rare quand même de créer un musée.
Bah, l'idée, c'est grâce à mes oreilles.
Ouais.
On a tous des oreilles,
ouais.
On écoute des choses, et des fois ça interpelle, des fois ça interpelle pas. J'avais 22 ans, même à l'époque quand j'avais 15 ans, 14 ans, 13 ans, je m'amusais avec les disques de ma sœur, de mon frère aîné, etc. Tout ça, à s'amuser à les passer en 78 tours, parce qu'à l'époque, l'appareil familial faisait les trois vitesses. Mm-hmm. C'était hyper drôle d'accélérer, on jouait. C'est en jouant, voilà,
ouais.
Avec les choses. Et après, on découvre des voix qui sont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'écouter. Et c'est cette curiosité qui est née petit à petit. Après, en achetant un appareil ancien, parce que je dis, tiens, à l'époque, pour écouter des disques anciens, il fallait l'appareil qui va avec. Mmh. Aujourd'hui, on peut écouter tel ou tel artiste. Là, je veux dire, Yvette Guilbert, et la personne, il va noter Yvette Guilbert, et tout à l'heure, il va regarder sur son téléphone, sur Google, il va trouver Yvette Guilbert, il va l'écouter. Mais moi, quand j'ai commencé, fin des années 80, il fallait avoir, trouver le disque ou le cylindre et trouver l'appareil pour l'écouter.
Ouais. Parce que pour revenir à ta jeunesse, toi, tu es originaire de Syrie.
Oui.
Et donc, en Syrie, quand tu avais 13, 14, 15 ans,
il y avait
de la musique, et il y avait des phonos, des pick-up.
Ah non, non, il y a des phonos, il n'y a pas. Il y a très peu. Les phonos, je les ai vus en Syrie dans les films égyptiens, noir et blanc.
Ouais.
Dans le décor, dans la maison, etc. Et ça joue. Mais je ne les ai pas vus en vrai.
Non, ouais.
C'est plus la musique actuelle, c'est plus la musique occidentale, jouée par des groupes locaux, etc. Tout ça.
Et parce que tu rencontres, en fait, quand tu viens à Paris faire tes études, tu as une vingtaine d'années, c'est à ce moment-là que tu visites une exposition et que tu tombes...
Ouais, c'est complètement par hasard.
En amour.
Ouais, à l'époque, ça veut dire, je commençais à faire des études de prothésiste dentaire que je trouvais finalement... j'ai rien contre le prothésiste dentaire.
Non, mais nous non plus, on en a besoin.
Mais c'est le côté manuel que j'adorais dans ce métier-là, mais pas le fonctionnement même d'avoir une boîte écrite dedans, les instructions. Ouais. On fait les instructions, c'était en plein évolution du Walkman, chacun avait son Walkman, et personne ne se parlait, etc. Tout ça. Je dis non, ça c'est pas pour moi, j'en veux pas.
Ouais.
Et du coup, j'ai fait des... parce qu'il fallait terminer l'année en question, j'ai fait des cours de soir en stylisme-modélisme. etc. Et après, par hasard, il fallait faire un stage où on trouvait des choses. Et je trouvais la boutique Jean-Paul Gaultier, que je ne connaissais même pas qui c'était Jean-Paul Gaultier. En passant par hasard devant, je dis waouh, c'est magnifique ce lieu. Et je rentre, etc. Et voilà, et j'étais pris. Et quand je travaillais chez Jean-Paul Gaultier, on allait pour sortir déjeuner, on passait par la galerie Colbert. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut plus. De la galerie Fivienne vers laquelle j'étais il n'y a pas longtemps, c'est fermé.
D'accord.
On passait, on traversait, et il y avait une exposition qui s'appelait De fil en aiguille.
Ouais.
Hein, le fil, le téléphone, l'aiguille du tourne-disque. Ouais. Et à chaque fois, on passait, je dis, ça m'interpellait, les objets, etc., dans tous les sens. Et je dis, demain, je ne veux pas déjeuner, je vais aller voir l'expo. Et le passé, un jour, on avait des copains et tout ça. Et un jour, j'ai dit, non, il faut que j'y aille. Et j'y vais, je vais rentrer. Il me dit, non, désolé, on est en train de remballer l'exposition. et comme souvent, quand on travaille chez Jean-Paul Gaultier, on est curieusement et joliment habillé. La personne, elle m'a dit, mais si vous voulez jeter un coup d'œil. Et je dis, oui, parce que je vous ai expliqué, je travaille à côté, je passe tous les jours à l'heure de déjeuner. Vraiment, c'est dommage de rater. Elle m'a laissé rentrer. Pour regarder un peu, je regardais comme ça, vite fait. Et c'est là où on découvre un univers mais incroyable. Parce que quand on ne connaît rien, et c'est ça le rôle du musée, hein, le Phonomuseum, c'est ça ce qu'il fait. C'est qu'on vous montre ce que vous ne connaissez pas. Parce qu'on a une idée, ça c'était, ah oui, il y a longtemps, c'est ça les vieux CD, les gens qui arrivent, c'est ça les vieux disques, c'est ça les vieux, etc. Et qu'on découvre un univers qui est méconnu, et même jusqu'à aujourd'hui, des fois on a des visiteurs qui rentrent, c'est le père qui ramène, ou le grand-père qui ramène, c'est pour le petit, moi je connais l'histoire, et après c'est cette personne-là, elle va poser plus de questions que le petit, et ainsi de suite, et c'est ça l'idée, c'est ça le musique, pour moi ce que j'adore dans la musique, c'est qu'on écoute ce qu'on veut, quand on veut, le volume qu'on veut, voilà, ça veut dire on maîtrise le truc à 100%. Est-ce qu'on a envie d'écouter?
Est-ce que toi qui es Alistair musicien, est-ce que l'histoire justement de la mécanique, c'est-à-dire du gramophone, du phonographe, du pick-up, l'évolution, tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu connais, qui t'intéresse ou...
Non, je connais pas particulièrement, ça me passionne, mais c'est vrai que c'est pas, ça me donne énormément envie d'aller.
Il va nous organiser.
Il en parle très bien en plus.
Il est au 53 boulevard de Rochechouart. Alors, 9e, côté 9e, c'est entre Pigalle et Anvers.
C'est pas loin du Trianon, alors?
C'est pas loin, c'est entre les deux. Cigale, Trianon, c'est entre les deux.
Alors pour faire un petit peu, est-ce que tu peux nous faire, pas une conférence, mais un tout petit peu d'histoire?
Résumé, on peut pas. Ah. Non, il faut 3 heures.
Ben vas-y, alors, démarre, je te couperai.
L'histoire, alors ça démarre, ce qui est extraordinaire, à Paris, en 1857. Par un monsieur qui s'appelait Édouard Léon Scott de Martinville, qui a eu l'idée d'enregistrer les vibrations qu'une voix dégage ou qu'un instrument dégage. Il dit, tiens, on peut les capter. Il fabrique un appareil, il arrive à les capter, il arrive à visualiser. C'est une visualisation. On voit ce qui se passe, on voit les courbes, on commence à étudier une voix grave, une voix aiguë, tel mot, telle prononciation. Et il appelle ça le phonotographe.
Le phonotographe,
ouais. Voilà. Et des phonotogrammes, c'est les papiers enregistrés. Et c'est une nouvelle forme d'écriture, parce qu'on ne peut pas écouter. On visualise, mais on n'écoute pas. Ça, c'est en 1857. 1877, il arrive un autre personnage à Paris qui est extraordinaire, Charles Cros.
Charles Cros, voilà. le fameux Charles Cros.
Inventeur, poète et tout ça. Et pour l'époque, c'était pas bon. On est inventeur ou on est poète.
On
est physicien. Voilà, on peut pas être touché à tout. Même aujourd'hui encore, dans certains milieux, c'est pas pris sérieusement. Et Charles Cros, il dit, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, Édouard Léon Scott de Martinville. Et si on arrive à entendre... Et il travaille là-dessus, et il trouve la technique. La technique, il trouve, c'est la gravure. C'est une gravure suffisamment en profondeur pour qu'on puisse lire sur la surface d'un disque plat. Mais il cherche des finances et tout ça, personne ne le prend au sérieux. Et c'est mort.
Et ça s'arrête
c'est
là.
Mort. Ouais. Il publie, etc. Tout ça. Et après, Thomas Edison, il a pris connaissance du pourquoi pas mettre ça en place. Ouais. Et c'est ça aussi, parce que souvent, les gens, ils disent, ah, Edison, il a piqué le brevet de tel, il a piqué le... Non, il achetait, et il négociait, etc., tout ça. Et il mettait en place et en pratique des choses que pour d'autres, c'était sans aucun intérêt. Et c'est ça le mérite d'Edison, pour dire, pourquoi pas. Il dit, même si ça échoue, c'est une expérience, on découvre des choses grâce à ça. Et Edison, en fin 1877, il arrive à fabriquer une machine qui enregistre et qui restitue la voix sur des feuilles d'étain.
Ouais.
Hein, et ça fait ça, c'est l'effet étriqué, parce qu'il fallait parler vraiment proche de la bouche de l'appareil, ouais, pour que les vibrations poussent la feuille. Ouais. Et quand on écoutait au retour, on écoutait ça.
Ouais.
Et il y a une anecdote intéressante. La première démonstration à l'Académie des sciences, c'était l'époque pour faire le buzz. On faisait une séance à l'Académie des sciences.
Ouais.
Du coup, la presse en parlait, etc. Et un académicien, je ne me rappelle plus que ça s'appelait son nom, c'est Bolo, un truc comme ça, il a crié, il y a un ventriloque dans la salle. C'est pour, ouais, marquer que c'est à tel point que c'était inconcevable. Mm-hmm. Nous, on est nés avec l'écoute. Pour eux, une machine restitue la parole, ouais, c'est impossible.
Ouais.
Et même jusqu'à aujourd'hui, ça reste fascinant quand on voit ces appareils-là. C'est vivant, on a l'impression que la personne est dedans. Mais c'est normal parce que sa voix, son âme est rentrée dedans par le pavillon, gravée sur les cylindres, et ça ressort à nouveau n'importe quelle époque.
On va prendre une respiration musicale, on va écouter Alain Souchon, Quand je serai KO.
When petite sœur will just have to remember I'll be down no more the old dancing music sound all day long in my gown when I will be down. Je serai KO, descendu des plateaux de phono, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace de chewing-gum. Chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums, est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Ouais, petite sœur, just have to remember I'll be down no more the old dancing music sound all day long in my gown when I will be down. Plus d'atoll pour une déprime qu'à du bol, plus les folles griffonnant je t'aime. Quand je serai rien qu'un chanteur de salle de bain, sans clap, clap, sans guitare, sans les batteries qui tapent, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Quand je serai KO, descendu des plateaux. Que tu m'aimeras encore dans cette petite mort.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Quand je serai KO, Alain Souchon. Alain Souchon qui a fait l'objet d'une une Schnock.
Oui, ouais, numéro 28 avec Laurent Voulzy.
Ah, c'était deux. Un numéro...
Il y avait deux interviews, très marrant, très sympa.
Jalal, est-ce qu'on peut considérer encore que ce sont les Américains qui nous ont passé devant pour l'invention de cette machine? Est-ce qu'on était à deux doigts, les Français, d'y parvenir? Et c'est Edison qui, sur le poteau, a coiffé tout le monde?
Ah, 100%.
Ouais.
Ah oui, parce qu'il n'avait aucun préjugé. Que pour Charles Cros, il fallait que ce soit concrétisé, que ce soit sérieux. Charles Cros, il montrait tout l'aspect pratique par rapport les sourds muets, par rapport aux apprentissages des langues, par rapport des voix aimées qu'on peut conserver à jamais. Et à un moment, pour convaincre des financiers de Breguet, fabricants horloges et autres, et lui dit, vous rendez compte, il y a un artiste que vous adorez, vous avez le morceau chez vous et vous l'entendez quand vous voulez, à l'infini. Et on a pris, là, on le prend vraiment pour un fou. Ouais. Il force trop sur l'absinthe, parce que c'était à l'époque l'expression qu'on donnait à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on est passé à côté.
Et ça ne l'a pas aidé d'être un poète
Ah, pas du tout. Ça n'a pas pris au sérieux.
Vive la France, quoi.
C'est ça. Et justement, Edison, comme il n'a aucun préjugé, et d'ailleurs, Edison, quand il a fait réaliser sa machine, quand il a commercialisé, avec son concurrent Graham Bell, ils ont fait tous les deux marques, ils ont décidé de ne pas se bagarrer, comme c'était en bagarre déjà avec l'électricité continue alternative, ils ont sorti un dictaphone.
Un dictaphone.
Voilà, un outil de travail. Ouais. C'est le début de l'industrie moderne. On laisse des messages, on laisse des instructions. C'est le début de la robotisation, façon de dire. Ouais. Pas une robotisation, mais c'est aussi pour simplifier. Le donneur d'ordre, machin, on laisse des instructions à des gens qui ne savent pas lire et écrire. Ouais. On a, hop, dans les écouteurs, où on va laisser un message à tel. Et voilà, il y a eu l'exposition 1889. Qui a vraiment donné un départ extraordinaire, parce que c'est là où les gens, ils ont vu ces machines-là, ils les ont entendues, ils ont fait des expériences. Edison, une idée extraordinaire aussi de marketing, ça c'est le génie Edison, c'est incroyable. Hein. Ça doit être lui et les gens autour de lui, hein. C'est vraiment... Edison, ça correspond à le moderne, c'est-à-dire le temps qu'on est, on est dedans. Là, on voit tout ce qui est lobby, tout ce qui est... On est... Il était déjà précurseur à 100%.
Il était déjà américain, quoi.
À 100%. Ouais. Et chapeau hein, pour lui, pour cette époque-là, quoi. Il offre un phonographe à Gustave Eiffel. L'homme phare de l'exposition, c'est Gustave Eiffel. Ça aurait été l'homme phare de l'exposition arrière-grand-père Olivier Vadreau. Il aurait offert un phonographe à Olivier Vadreau. Ah, ouais. Et l'idée, c'est quoi ? On fait une réception, offrir la machine, montrer comment elle fonctionne. Et cette machine, elle est où ? Elle est au bureau, le fameux bureau au troisième étage de la Tour Eiffel. Ouais. Et qui monte voir Gustave Eiffel au troisième étage de son bureau ? Que des gens connus. Ouais, c'est pas le lambda du visiteur.
C'était déjà du placement de produit.
Voilà, 100%.
Ouais, c'est ça.
100%. C'est ça. Et extraordinaire.
Dans tes appareils, les appareils que tu présentes au musée, le plus ancien que tu possèdes ?
Bah, le plus ancien, c'est la réplique du prototype de Edward Leon Scott de Martinville.
D'accord.
Parce que ça, le prototype, il y en a un, il avait disparu, etc.
Ouais, ouais.
Et c'est la seule réplique qu'on a. C'est un ami au Canada, un français qui a émigré au Canada, Jean-Paul Agnard, qui l'a fait trois exemplaires. Il y a deux exemplaires aux États-Unis et un exemplaire à Paris, au Phonomuseum.
C'est une copie récente, c'est ça que tu
Il l'a fait en 2007.
D'accord. Voilà. Okay. Et toi, et parmi les...
Et après, on a le premier appareil d'Edison. Après tout ça, c'est des vrais. Tout le reste, le premier appareil que Edison a fait à feuille d'étain, de 1877, l'émission 89, et tout le suivi de l'évolution. La première machine à disque de Emil Berliner. Emil Berliner, c'est lui qui a inventé le disque, c'est Charles Cros, mais c'est... En pratique, c'est Emil Berliner. On commence avec le disque, la marque Gramophone et toute l'évolution.
Tu parlais de l'étonnement des gens face au pavillon en entendant la voix, les premiers sons qui en sont sortis et l'étonnement des auditeurs. Ça ressemble un peu à l'étonnement des premiers spectateurs du cinéma quand ils ont vu des images animées, quand ils ont vu le...
Le train arrivé et qui se sont déplacés. Ah oui, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, suite au succès qu'il y a eu à l'exposition universelle de 1889, et c'est là où il y a des forains qui ont acheté des appareils comme ça, et pour faire écouter avec une galerie d'écouteurs, 15 personnes, on a des appareils qui sont visibles, écoutables au musée.
Ouais.
Et c'était une attraction. Ouais. Les gens payaient un sou pour écouter.
Et au Phonomuseum, il y a donc une grande partie de ces appareils-là. Oui. Ça va jusqu'à nos jours, parce que je me souviens qu'il y a un jukebox aussi, très récent.
Alors c'est important que ça, on a toute l'évolution.
Ouais, c'est ça.
Alors des fois, certains collectionneurs disent bon, ça c'est années 70, tout le monde connaît.
Ouais.
Mais non, c'est pas tout le monde connaît. Uh-huh. C'est là déjà les CD, on a des jeunes qui arrivent, c'est ça les vieux CD. C'est déjà le lecteur CD, il est en train de disparaître dans beaucoup de foyers. Alors,
ouais.
Mais ça se trouve encore.
Oui, mais on a du mal. Même à la réparer, etc. Tout ça, on a dans l'association, on arrive à sauver pas mal d'appareils, mais c'est pas évident. Même on a le premier iMac avec où ils ont intégré le lecteur CD. C'est là où ils ont dit tiens. On va mettre dans l'ordinateur un lecteur CD ou commencer à avoir des enceintes externes qu'on pouvait brancher. Ça, c'est 2004. Ouais. On est en 2026, mais c'est d'un seul coup, on est allé dans la miniaturisation tellement fort, dans la dématérialisation tellement loin. Mm-hmm. Du coup, un appareil de 2004, il est même au musée. Quoi.
Ouais. Est-ce que toi, Alistair, tu possèdes toujours une platine avec des vinyles?
Oui.
Ouais.
Ouais, mais je suis pas plus fétichiste que ça.
Non.
Que certains.
Ouais.
Moi, j'aime bien écouter au casque surtout.
Ouais.
Et ça me dérange pas que ça soit
du numérique.
Non, mais un CD, du MP3. Ouais. Je suis pas. J'ai pas de fétichisme pour
d'accord.
ça. Mais j'aime bien. Il y a des trucs en vinyle que j'écoute.
Il y avait une esthétique aussi.
Bien sûr.
Il y a une esthétique, là, comme j'ai vu qu'à la Fnac, ils revenaient avec des grands rayonnages de vinyle de 33 tours. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand tu arrives à la Fnac, tu vois ces rayonnages, c'est quand même vachement plus beau que les CD qui sont en rayon.
On en trouve des super sur les brocantes.
Mmh. Oui, mais il faut qu'ils soient en bon état, parce que les brocantes...
Oui, mais ça se chine beaucoup, on en trouve.
Et ça, c'est un des problèmes des vinyles, évidemment, ouais. c'est qu'il y a des craquements.
Bah oui, c'est collector, maintenant. Bah
ouais, mais ce qui est amusant, l'arrivée du CD, le vinyle était tellement grand, faisait la publicité qu'on peut le mettre dans sa poche.
Oui, bien sûr. Mmh.
Que le disque vinyle, si on n'avait pas de cartable, restait deux, trois, c'était embarrassant. Ouais. Et là, on appréciait la miniaturisation. Et quand la miniaturisation est devenue tellement importante, on va apprécier le visuel et les caractères et tout ce qui est travail artistique.
C'est ça, veut dire,
moi, je vois des jeunes, même ma fille qui a 13 ans, alors elle a un lecteur grâce à moi, mais ses copines, ils achètent de vinyle, mais ils n'ont même pas de lecteur.
Ouais, c'est
comme ils achetaient à l'époque un t-shirt ou une casquette ou un
c'est
objet.
C'est un élément de décoration.
Voilà, c'est ça. Vincent, toi qui es un grand fan de musique, préférence pour le CD, le vinyle, le numérique
J'aime bien le vinyle.
Ouais.
Pour certains genres musicaux, par exemple le reggae en vinyle, ça n'a pas d'équivalent.
D'accord.
Au niveau, par exemple, du rendu des basses, ça n'a pas son équivalent. On peut prendre le meilleur mastering qui soit en CD ou en fichier numérique, ça n'atteindra jamais
la qualité.
Cette qualité, cette profondeur de son. Le CD, ça dépend lesquels, parce qu'il fut un temps, on remasterisait à croire que vraiment les gens qui s'occupaient de ça, ils avaient des biscuits écrasés dans les oreilles, parce que franchement, il y a des CD. On prend par exemple les disques de ZZ Top, ceux qui ont été remasterisés dans les années 80, c'est une catastrophe, ils ont même dû carrément tout refaire. Et retravailler à partir des bandes originales pour retrouver le son à peu près équivalent vinyle. Parce que franchement, le masterisation des années 80, c'est une catastrophe. Et en ce qui concerne le numérique, eh ben, ça dépend du taux d'échantillonnage.
Ouais.
Et bon, malheureusement, mais avec le meilleur taux d'échantillonnage, il reste quand même un phénomène de compression. Et ça joue énormément sur la qualité générale du fichier musical.
Les cassettes, vous avez oublié les cassettes?
Ah bah j'en ai eu, bien sûr, oui.
C'est là où on voit la qualité, comme tu disais, par rapport à la source, c'est la bande magnétique, l'enregistrement bande magnétique.
Absolument.
Et justement, on a restauré une machine, parce qu'on avait une, pour montrer la différence, un lecteur à bande magnétique domestique, parce qu'on a, au début, c'est professionnel, après on dit, tiens, on veut... Il ne faut pas oublier que l'industrie musicale, elle est commerciale.
Oui.
Si quelque chose ne vend pas, il ne se développe pas.
Oui.
C'est, on ne le fait pas pour le plaisir, il n'y a rien du tout. Hein. Ils l'ont orienté vers la partie domestique, et on entend la différence, c'est énorme entre un appareil professionnel, mais c'est fabuleux. Et c'est fabuleux. Et après, voilà, on a dit la cassette parce que c'est plus facile, les voitures, après les petits appareils, c'est pareil pour vendre encore plus d'appareils. Parce qu'au début, le rêve d'Edison, c'est d'avoir un appareil dans chaque foyer. Oui, c'est le... Et mais maintenant, c'est le... à partir des années 70, c'est chaque membre de la... le rêve, c'est de chaque membre de la famille a son appareil dans sa chambre.
Ouais.
Et on continue avec ça.
Une des activités, non pas du Phonomuseum, mais de la Phonogalerie, qui est associée au Phonomuseum, c'est aussi la location pour le cinéma, pour les tournages de cinéma, la télé, les téléfilms.
Bah, tous les besoins, hein, ça veut dire en...
les expositions.
Expo, alors tout ce qui est expo et tournage, location pour les films, ça on les oriente vers le musée. Comme ça, ça fera un peu de sous pour le musée, pour le Phonomuseum, pour son financement. Et après, du coup, la phonogalerie reste la partie réparation, vente et achat-vente et réparation.
Ouais.
C'est ça, parce que c'est le départ. C'est le départ, c'est d'une passion qui est devenue un métier. Et après, le musée est arrivé de là. Parce que quand j'ai ouvert la phonogalerie en 2004, c'est l'étonnement toute la journée. Les gens rentrent, c'est quoi ça? Ça marche comment? C'est et le local qui collait à la phonogalerie, c'est là où actuellement le Phonomuseum, la partie rue Lallier et le boulevard Choix, était vide. Et on dit tiens, si on fait un musée qui va répondre à toutes ces questions-là. Et c'est finalement c'est ça. C'est pas un musée pour les autres parce que c'est un musée qui se transforme. La visite se transforme rapidement en questions-réponses. Et ça c'est superbe.
Parce que c'est toujours par des petits groupes.
Personne. Voilà. Met très peu d'écriteaux, etc. Tout ça. Les gens demandent, parlent, etc. C'est par rapport à la taille. C'est ce
ton plus beau placement d'appareil dans un tournage.
Ah, il y en a plein. Aznavour, j'aime bien, parce qu'il y avait plusieurs époques. C'est ça, ce qui est sympa. La Moumpiaf, c'était le premier. Ça veut dire, si on va côté chronologique, la première location qu'on a fait, c'était mais en plus, c'est ça, ce qui est intéressant en tant que spécialiste, c'est que quand la personne, je me souviens toujours, qui est venue pour le film La Moumpiaf, il cherchait un appareil comme ci, comme ça. Et nous, on leur pose la question, mais pour quel, on ne veut pas dire quel film, mais dans quel contexte est-ce que la personne est richissime, qu'elle écoute la musique? Est-ce que c'est quelqu'un modeste pour que ça soit
c'est
pas...
populaire ou pas?
Voilà. Alors des fois, les gens me disent, ah, j'ai vu un phono dans un... ça vient de chez toi. Mais je dis, mais s'il est un pavillon laiton, un truc très brillant, ça vient pas de chez nous. ça, c'est les copies. Et il faut que ça colle. Et c'était un phono que la mère de Piaf avait. La mère de Piaf avait pas beaucoup de moyens et ainsi de suite. Et ça veut dire, eux, ils voulaient le plus beau qu'il y avait. Mais je dis, non, ça colle pas. C'est pas bon. Et du coup, heureusement, ils nous ont écoutés. Parce que des fois, ils restent obstinés. C'est rare.
Ils vous font confiance parce que les experts, c'est toi l'expert.
Aznavour, c'est super parce qu'il y avait plusieurs époques. C'est ça ce qui est intéressant. Après, toute la partie studio, tout ça, plus compliqué, ça vient pas de chez nous.
D'accord.
Les appareils domestiques, oui.
À Radio Libertaire, on aime musicalement faire le grand écart. Dans quelques instants, on écoutera une chronique consacrée à Bob Marley. Mais en attendant, on va s'écouter un petit Mistinguette. C'est vrai.
Moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu Londres, j'ai vu Turin, l'Autriche, Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne. Car je ne peux pas, moi je vous le dis, me passer de Paris. Ce Paris qui pourtant vous chine tant et tant. On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes. C'est vrai, on dit. Que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines. C'est vrai, lorsque ça monte trop, moi je m'arrête. Et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai le nez en trompette, mais je serais pas Mistinguette si j'étais moi comme ça. Que c'est bon quand on vient d'Amsterdam et qu'on a vu pendant des mois des tas de pays. De retrouver le macadam de Paname, ses autobus et son métro et ses taxis. Paris et ses boulevards avec tous ses bobards. On dit que j'ai de grandes connotes, que je n'ai que trois notes. C'est vrai, on dit que j'aime jouer les arpètes, les marchandes de violettes, c'est vrai. Mais ne voulant pas chipper aux grandes coquettes, leurs dames aux camélias, moi je vends mes bigonias. On dit Quand je vais voir mes grands bêtes, mais je serais pas Miss Tinguette si j'étais pas comme ça. Quand je fais mes emplettes, que je paye pas ce que j'achète.
C'est vrai.
On dit, partout et l'on répète, que je lâche pas mes pépettes.
C'est vrai.
Mais s'il faisait comme moi pour sa galette, monsieur Sarrault n'aurait pas un budget aussi bas. Et si l'on mettait à la tête des finances distinguettes, on n'en serait pas là.
C'est vrai, Miss Tinguette, et c'est un choix de notre ami Jalal. Tu possèdes les machines, mais tu possèdes aussi des supports, tu possèdes des disques aussi, beaucoup.
Ah oui, parce que l'un sans l'autre, ça n'a aucun intérêt.
Mais oui.
C'est, faut les, ça veut dire les disques, c'est fait pour jouer les machines jouer les disques, et ouais. Voilà. Et c'est ça l'intérêt quand on visite le Phonomuseum, c'est... voilà, on écoute des vrais disques sur des vrais appareils, oui. Pas de numérisation de trucs historiques pour dire voilà, parce qu'il est tellement fragile qu'on ne veut pas le faire écouter.
C'est ça. Ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, tous les appareils qui sont présentés sont en état de marche.
Oui, alors la plupart, on dit 80%, parce qu'en vrai,
c'est déjà beaucoup quand même.
Voilà, oui. Et c'est ça ce qui est, on se rend compte pendant la visite de l'évolution. C'est pour comment les gens ils étaient tellement stupéfaits, tellement émerveillés, même si la qualité n'était pas terrible, c'était extraordinaire.
Ouais,
extraordinaire d'entendre et ne pas voir la personne.
Ouais. C'est vrai que découvrant cette technologie, il y avait de quoi être bouleversé, touché, d'être ému, d'entendre des voix qui sortent d'une galette de cire à l'époque ou d'un rouleau.
Ou d'un cylindre.
Ou d'un cylindre.
Comme elle dit, Miss Tinguette, c'est vrai.
C'est vrai, c'est ça.
Je me ramène.
Le son des appareils que tu fais écouter là-bas, et c'est pas du tout, on dit pas du tout, ça grésille. C'est
ah non, parce que l'idée.
Pas, c'est un son très chaud.
Ah oui, parce que l'idée du grésillement, de son qui est bizarre et tout ça, c'est l'usure. Et quand on ne connaît pas et qu'on a eu des appareils usés et on ne sait pas les utiliser, ça donne un son catastrophique. et il ne faut pas oublier, c'est les gens qui les ont eus au début, ils ont eu toutes les indications, tout le mode d'emploi. Faire changer l'aiguille, faire ceci, faire cela. Mais après, plus tard, des gens ils ont récupéré ça dans le grenier, ils ne savaient pas, et ça, ils ont commencé à jouer sans changer l'aiguille, ils ont bousillé le disque. Et du coup, le disque bousille et l'aiguille bousille. Là, on a un son catastrophique.
C'est difficile de faire vivre un musée à Paris.
C'est difficile sur le plan financier.
Ouais.
C'est pas difficile à part ça, mais voilà, parce qu'il y a un loyer, il y a des factures à payer, etc.
Bien sûr,
ça.
Bien sûr.
Mais la musique l'emporte.
Ouais.
Là, c'est difficile. Si c'est facile, tout le monde le ferait, comme on dit.
Oui, c'est pas si sûr que ça. Pour faire vivre le musée, vous organisez en plus des visites les vendredis et dimanches, vous organisez des événements.
Des événements, des conférences, des concerts. Mm-hmm. Là, le prochain, c'est jeudi, après-demain.
Patika qui est en concert.
Patika de Montmartre à Pigalle.
Ouais.
C'est superbe parce que c'est des chansons à elle, des chansons anciennes. C'est alterné.
Mm-hmm.
Hein? Et on a aussi l'introduction de chaque chanson. Mm-hmm. Ça, c'est superbe.
Ouais. Hein? Ça c'est jeudi soir, c'est à
19h15,
c'est pas trop tard, c'est bien. Donc
voilà. L'heure c'est jamais bon.
Ah ouais.
Vous faites 15h, dit c'est trop tôt, vous faites 17h, c'est trop tard.
C'est vrai,
trouver la bonne heure, c'est galère. Hein.
Ouais.
Mais le bonjour aussi. Hein.
Ah oui, pareil.
Qui va
Bon, là, on sait que ça sera jeudi prochain 21 mai à 19h15 au Phonomuseum 53 boulevard Rochechouart, dans le 9e, Patika en concert.
Après, on peut suivre sur le site du musée, sur les réseaux sociaux. On a fait tout ce qui est les conférences. Après, une conférence sur les femmes des années folles.
Oui, au mois de juin.
Ça, c'est super. Ça, c'est le 26 juin.
Ouais.
Et voilà. Et après, entre-temps, il peut y avoir quelque chose d'autre qui atterrit.
Ouais.
C'est ça aussi l'avantage du Phonomuseum. Ça veut dire que ce n'est pas le musée qui est figé.
Ouais.
Demain, on peut rencontrer quelqu'un, me dire ah, j'ai envie de faire ça, est-ce qu'on peut faire dans la semaine, etc. Tout ça, si c'est faisable et c'est bien pour tout le monde, on le fait.
Ouais,
c'est,
ouais.
Pas besoin de programmer ça 6 mois à l'avance ou 1 an à l'avance.
Concert, lecture, sortie d'album, tout ce que vous voulez. Soirée privée, si vous voulez fêter vos 25 ans de mariage ou vos 25 ans de divorce. Jalalaro, il n'y a aucun problème. Voilà. Il vous recevra toujours avec grand plaisir. Le Phonomuséum de Jalalaro et de son équipe est situé au 53 boulevard Rochechouart dans le 9e. Pour ceux qui situent bien, c'est entre le Trianon et la Cigale, grosso modo. C'est ouvert 2 jours par semaine, le vendredi et le dimanche, de 10h à 18h. C'est ça, Jalal?
Voilà, ça c'est, on passe, on visite n'importe quelle heure, il n'y a pas besoin d'acheter un billet à l'avance,
okay.
Ni réserver, des visites en non-stop.
On trouve toutes les infos sur phonomuseum.fr.
.fr ou les réseaux sociaux.
Et les réseaux sociaux.
Toujours Phonomuséum.
Le Phonomuséum aussi, il y a 2 événements, donc on a le concert de Patika qui est jeudi soir le 21 à 19h15, et puis on a une conférence Femmes des années folles, ça sera le 26 juin au Phonomuséum. Dépêchez-vous
de rester jeune.
Dépêchez-vous de rester jeune.